Chapitre 28. Île de Mawan, Hong Kong. Wuxi pénétra dans l'Arc Expo, impressionné. Des centaines de familles, toutes générations confondues, formaient une foule remuante et bruyante dans l'immense hall, se pressant autour des multiples animations pédagogiques à destination des plus jeunes. Présentation multimédia de l'histoire de l'Arche de Noé et de sa morale pour le monde d'aujourd'hui et du futur. Cinéma à 180 degrés, racontant une journée de déluge. Atelier interactif sur les météorites, les animaux microscopiques, les plantes les plus étranges. Rien de bien méchant au fond, si ce n'est le sponsor dont le logo apparaissait sur chaque panneau, The Media Evangelism Limited. Peu importait à Wuxi. Il s'approcha de l'exposition temporaire de l'équipe Noah's Ark Ministries International. Il avait franchi sans encombre la première étape. À l'entrée du hall, il n'avait subi qu'une fouille légère. On lui avait demandé d'entrouvrir son sac, rien de plus. Comme il l'espérait, le hall était peuplé en majorité d'enfants et de leurs mères. Jusqu'à présent, tout se déroulait comme il l'avait imaginé. Le fragment d'arche était là, devant lui, derrière une mince paroi de verre. Wuxi avait entendu parler de cette fameuse expédition de 2007. Les journaux s'en étaient donnés à cœur joie. Une équipe de 14 explorateurs et de scientifiques chinois et turcs était montée sur le mont Ararat. Wuxi, sino-turc, avait suivi toute cette affaire avec une attention amusée. L'expédition avait rapporté un film et surtout, ils affirmaient, documentaire vidéo à l'appui, avoir trouvé dans les glaces du mont des poutres de bois à l'endroit précis où un Français avait fait la même découverte 50 ans auparavant. La conférence de presse du 26 avril 2010 à Hong Kong avait fait grand bruit. L'association Noah's Ark Ministries International prétendait qu'après un examen des fragments de bois au carbone 14, on pouvait les dater avec précision. 4800 avant notre ère. Même datation, semblait-il, que celle des anciennes trouvailles du Français. Le réalisateur chinois avait poussé le bouchon jusqu'à déclarer devant toutes les télévisions « Nous ne sommes pas certains à 100% qu'il s'agisse de l'Arche de Noé, mais nous le sommes à 99,9%. » L'affaire avait provoqué la colère du ministre turc de la Culture, étonné que des vestiges découverts sur son territoire puissent se retrouver en Chine sans autorisation des autorités locales. Il avait même demandé à l'UNESCO l'inscription du site au patrimoine mondial afin d'éviter à l'avenir tout pillage. Cette polémique dépassait Wuxi. Tout ce qui lui importait, c'était ce fragment devant lui. Une pièce de bois de 20 cm sur 10. Il jeta un coup d'œil circulaire. Une petite dizaine de gardiens surveillaient le hall, dont un droit devant lui, ne quittait presque pas la vitrine des yeux. Ne pas douter maintenant. Wuxi était conscient que son plan était loin d'être parfait, mais c'est le seul qu'il avait trouvé, à la hauteur de ses moyens. Il sortit de son sac une sorte de kebab au thon. Il traversa la foule en prenant bien soin de faire tomber derrière lui une traînée de miettes, de morceaux de poisson et de salade. Une mère de famille l'observa, écœurée. Ne pas se faire trop remarquer tout de même. Wuxi avança jusqu'à la rotonde centrale, un jardin japonais composé de cubes de bois, de branches d'olivier et de colombes en plastique. Délicieusement kitsch, pensa Wuxi. Il fit tomber le reste de son sandwich dans la terre, s'assura que personne ne prêtait attention à lui, ouvrit son sac et attendit. Le rat mit à peine quelques secondes à sortir de la poche intérieure. Titubant, pas très en forme. Il n'était pas difficile de trouver un rat dans cette ville, surtout dans une maison-cage. Wuxi devait faire vite maintenant. Il s'éloigna, laissant le rongeur grignoter les miettes de poisson. Wuxi se tenait devant la vitrine de la poutre de l'arche depuis moins d'une minute lorsque le hurlement d'une femme retentit. Ce premier cri fut immédiatement suivi d'une dizaine d'autres. Tout le monde se retourna, garde compris. Maintenant. Le poing d'Wuxi, enfilé dans une écharpe de laine, traversa avec violence la paroi de verre. Dans le même geste, il saisit la pièce de bois. L'alarme se déclencha aussitôt, provoquant un mouvement de panique supplémentaire dans le hall. Avant que les gardes ne fassent la distinction entre les cris de panique des touristes et la vitrine fracturée, Wuxi avait dissimulé son larcin dans son sac et se fondait dans la foule. Les portes du hall se fermèrent automatiquement. « Personne ne sort !» hurla un garde. Trois autres gardes constataient, hébétés, le verre brisé et la vitrine vide. Wuxi savait qu'il ne laisserait sortir personne sans l'avoir fouillé méticuleusement. Mais cela prendrait du temps. Beaucoup de temps avant d'évacuer les centaines de familles. Le sino-turc observa les gardes se précipiter pour examiner le moindre recoin du hall, des ateliers ludiques aux toilettes. D'autres se postaient devant chaque issue. Le hurlement de la sirène s'arrêta enfin. On expliqua au micro que les touristes devaient se ranger en file devant chaque sortie, qu'on allait les faire sortir un par un après une fouille complète. L'annonce provoqua un tonnerre de protestations. Certains, pressés, se hâtèrent pour être les premiers dehors. D'autres prenaient calmement leur mal en patience. Des renforts arrivaient de partout. Un vieux policier chauve tentait de donner des ordres à une armée de type impassible derrière leurs grosses lunettes de soleil occidentales. Ushi attendit encore un quart d'heure, puis se dirigea vers les toilettes. Il savait qu'il devait faire vite maintenant. Le Grand Paris. Comme prévu, il n'y avait aucune issue dans les toilettes et aucun garde n'avait trouvé utile d'y rester posté, le lieu ayant déjà été fouillé. Ushi tira le verrou, posa la section de poutre sur la cuvette, sortit son couteau de poche et entama le bois. Sans difficulté, il détacha un fragment de 4 cm. Cela suffirait. Les ordres étaient clairs. Son commanditaire n'en demandait pas davantage. En quelques gestes précis, il fit ensuite comme on le lui avait ordonné. Il ouvrit du pied la poubelle de métal et y jeta le bout de bois. Il sortit de son sac la bouteille d'eau minérale pleine d'alcool, la versa, gratta une allumette et quitta les toilettes pendant que la poubelle derrière lui flambait comme un brasero. Combien de temps mettrait la poutre à se consumer? Un quart d'heure? Davantage? Ushi serra le morceau de bois dans sa paume en avançant vers l'une des files de visiteurs. Toutes semblaient figées dans une interminable attente. Calmement, Ushi décrocha son collier pendu à son cou, celui auquel il accrochait la clé de sa maison-cage. Une petite pince de fer pendait à la chaîne. Les mâchoires se refermèrent sur le mince morceau de bois. Avec la clé, le tout repassa autour de son cou. La meilleure cachette, c'est bien connu, est la plus visible. Qui pourrait soupçonner un jeune Chinois qui porte la clé de sa maison-cage autour de son cou? Après de longues minutes de patience, Ushi sortit dans l'Arc Garden, sans être inquiété le moins du monde par les gardes. Le reste de la poutre devait s'être consumé maintenant. Ushi s'appuya au cul d'un éléphant en plastique, souffla, et se demanda pourquoi son commanditaire n'avait exigé qu'un mince éclat, et surtout, pourquoi il avait tant insisté pour que le reste de la poutre soit détruit. En se creusant la tête, il aurait sans doute pu trouver un moyen pour sortir un plus gros morceau. Un plus gros morceau d'arche de Noé devait valoir davantage. Enfin, cela lui semblait logique. Visiblement, son commanditaire ne possédait pas la même règle à calculer. Il s'en foutait, après tout. La seule question qui importait maintenant était de se faire payer. À y réfléchir, il ne savait rien de ce type qui parlait turc et qu'il devait revoir après-demain à Langham Place. À moins qu'il ne l'appelle avant. Le type lui avait laissé son numéro de portable au cas où. Ushi était pressé d'échanger ce cure-dent contre 5 000 $. Il passa sa main sur la trompe rugueuse et froide de l'éléphant. Tout en caressant le pachyderme, une question bizarre lui vint. Son rat s'en était sorti, lui aussi. À 3 mètres derrière Ushi, dissimulé derrière les formes rebondies du couple d'hippopotames, l'homme vérifia qu'aucun flic ne traînait dans les parages. Il tira le revolver de sa poche, s'assura rapidement que le cran de sécurité fonctionnait, puis le dissimula à nouveau sous sa veste. Il ne lui restait plus qu'à suivre discrètement ce petit malin de gosse chinois, attendre un coin tranquille et lui fourrer le canon sous la nuque.